Santé Beaujolais Dombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais Dombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais Dombes sur le site internet de Radio Calade ou sur leur page Facebook, ainsi que sur le site de la CPTS et nos réseaux sociaux de la CPTS. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais Dombes et animée par Alexandra. Bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux ?
Tout va bien.
Bon, ce n'est plus du nez ?
Ça va mieux.
Bien. Marie ?
Bonjour Ludovic.
On est content hein, qu'elle soit revenue quand même.
Oui, oui, parce que les noms de chansons en anglais, c'était vraiment pas mon truc.
Je vous ai manqué.
Sur la partie technique, Amaury, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui donc, nous allons aborder une émission découverte. Découverte d'un métier, et plus particulièrement celui de l'infirmière puéricultrice. Cette profession va être au plus près de l'enfant et de ses problèmes, mais également des parents en les accompagnant au mieux dans les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Cette émission va être décomposée en trois chroniques et vous commencez à le savoir. Nous nous intéresserons à la formation de ces professionnels de santé, à leur mission et à leur mode d'exercice. La seconde partie sera plus précisément sur l'exercice libéral en discutant des spécificités, des défis et des missions des péricultrices en libéral. Enfin, nous aurons un retour d'expérience avec le témoignage de parents qui nous permettra de comprendre un peu mieux les champs, les actions possibles et les interactions entre l'enfant, la famille et l'infirmière puéricultrice. Pour en parler, nous accueillons Cindy Consigny. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière.
Oui.
Puéricultrice.
Tout à fait.
Et vous exercez à la maison de santé de...
À la maison de santé des Grillons, à Glaizé.
C'est bien comme ça. J'ai bien... Voilà, ça permet au moins que ce soit la bonne maison de santé. J'avais...
ça permet d'éviter les bourdes.
C'est ça. Alors, on va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous présenter votre profession ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, l'infirmière puéricultrice, c'est avant tout une infirmière. Nous avons 3 ans de formation initiale, pour la formation infirmière, où nous abordons tout ce qui concerne la santé de façon globale, la pathologie également, à tous les âges de la vie. Et puis ensuite, pour être puéricultrice, il faut faire 1 an de spécialisation centrée sur le développement de l'enfant, sa santé, les pathologies spécifiques aux enfants et en lien avec son environnement et sa famille.
L'enfant de quel âge à quel âge ?
Alors, l'enfant de quel âge à quel âge ? La puéricultrice peut être amenée à intervenir dès la grossesse, puisqu'on peut préparer l'arrivée du bébé, même avant sa naissance. Et puis après, jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'âge de la majorité.
Oh, c'est dommage, c'est très, très varié. An près, j'y étais.
Voilà, et donc l'infirmière puéricultrice intervient vraiment à un croisement et de façon globale autour de l'enfant et de sa famille, aussi bien au niveau sanitaire, médical, qu'au niveau
social
et psychosomatique, voilà, vraiment dans la globalité de la santé et de la pathologie.
Ce qui signifie qu'on peut rencontrer des infirmières puéricultrices à quel endroit ?
Alors, les infirmières puéricultrices, on peut les rencontrer à divers endroits. La principale chose à laquelle on pense, c'est à l'hôpital, dans tous les services de pédiatrie, qu'ils soient spécialisés ou généralistes. Un petit peu en maternité, il n'y en a pas toujours en maternité, mais ça peut arriver. Après, en milieu extra-hospitalier, on va avoir les crèches, donc soit en section auprès des enfants, soit en direction de crèche. En PMI aussi, la PMI qui va accompagner les familles en général jusqu'aux 6 ans de l'enfant, sur tous ces aspects-là de la santé et de la parentalité, du fait d'être en famille et de s'occuper d'un enfant. Et puis, en libéral, ça commence un peu aussi à se développer.
C'est assez récent, non ?
C'est très, très intéressant. Il y a un champ d'action très varié
Je me suis mal exprimée. C'est assez récent le fait que ce soit des péricultrices en libéral.
Oui, le libéral c'est très récent, c'est encore peu connu malheureusement. J'espère que ça va se développer avec cette émission et puis avec l'évolution des politiques de santé.
Aussi. On y reviendra justement, je crois, dans le courant de, dans le courant d'émission. Vous avez abordé la partie sociale. C'est important.
Oui, c'est important parce qu'un enfant, il grandit pas seul. Il grandit au sein de sa famille, au sein de d'un environnement. Et donc, pour prendre en charge un enfant, on a besoin de connaître aussi dans quel milieu il évolue, quelle relation il a avec ses parents. Voilà, comment ça se passe, par exemple, à la crèche ou à l'école pour les plus grands. Voilà, puisque la santé, on le sait, c'est un bien-être global, aussi bien physique, mental, social, etc. Donc, voilà, l'importance de prendre cet aspect-là en compte pour les enfants.
Du coup, l'infirmière puéricultrice, elle va essayer d'évaluer vraiment la globalité de la situation pour s'intéresser à l'état de santé de l'enfant, notamment dans les milieux hospitaliers, etc. Elle va avoir cette particularité-là en plus d'une infirmière classique.
Finalement. Oui, tout à fait, parce que pour reprendre sur l'exemple hospitalier, à l'hôpital, on doit faire des soins qui sont parfois douloureux, qui peuvent être refusés par l'enfant. Le fait qu'il y ait cette bulle familiale autour qui peut conforter, apaiser l'enfant, c'est très important pour pouvoir, dans la mesure du possible, obtenir l'accord de l'enfant pour les soins. C'est toujours l'objectif premier. Et voilà, si on a cette bulle, ce lien parent-enfant qu'on prend en compte, les parents deviennent acteurs aussi du soin, et ça facilite beaucoup les choses pour tout le monde.
Je crois que vous avez travaillé à l'hôpital. Oui. Vous avez été d'abord infirmière, puis puéricultrice.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vision des choses, le fait d'être puéricultrice ? Parce que vous avez travaillé en pédiatrie avant de faire la formation de puéricultrice.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui dans votre vision des choses, dans la vision des soins, dans la vision du soin en globalité ?
Dans la globale, justement, qui a changé. Avoir fait la formation, du compte que mes quelques années d'exercice en tant qu'infirmière, en néonat principalement, et pédiatrie, j'étais plus dans la technique, dans le soin technique à proprement parler, sans avoir connaissance de tout ce que ça implique derrière pour l'enfant, sans une réelle connaissance de son développement psycho-affectif et donc de ses besoins. Et voilà, là, le fait de filtrer, à se centrer sur l'enfant, son stade de développement en fonction de son âge, bien sûr, ça change très vite sur les premières années. Et de pouvoir adapter mes soins. Alors, ça ne change pas grand-chose au niveau de la technique, mais par contre, de l'accompagnement de l'enfant au moment du soin, ça m'a changé ça.
Et de la compréhension, j'imagine, également.
La compréhension de ses réactions, tout à fait.
Tout à fait. Vous parlez des complémentarités, finalement, interprofessionnelles. Alexandra a commencé avec l'infirmière, les différences entre l'infirmière et l'infirmière puère. Est-ce qu'il y a d'autres interactions ou est-ce qu'il y a d'autres complémentarités avec d'autres professions ?
On peut être complémentaire avec beaucoup de professions. La prise en charge de l'enfant, elle se fait pareil de manière globale. Et on peut être amené à travailler avec plein d'autres professionnels de santé. Et c'est une vision qui va... Enfin, le fait de travailler avec quelqu'un d'autre va apporter justement d'autres regards pour compléter. On peut, par exemple, on peut travailler avec les sages-femmes qui, elles, ont la spécialité donc sur la femme enceinte, la grossesse et le nouveau-né sur les premières semaines de vie. Leur formation, il me semble, est plus centrée sur l'aspect physique, enfin sur la nouveau-né. Et du coup, nous, on a une complémentarité justement sur les besoins.
Le développement
le
aussi.
Le développement, voilà, sur l'allaitement maternel et la création du lien, par exemple. En milieu hospitalier, on peut être amené, on est amené, on travaille ensemble avec les auxiliaires de puériculture, les aides-soignantes, les médecins, bien sûr. Et puis après, dans le suité, d'autres professions.
On n'a pas parlé sommeil. Vous intervenez aussi sur le sommeil ?
J'interviens un peu sur le sommeil, oui. Notre formation de base d'infirmière puéricultrice nous donne des compétences sur l'accompagnement au sommeil, sur les bases, en fait, les bases de la physiologie du sommeil. Tout ça en lien avec le développement psycho-affectif nous permet de comprendre comment évoluer le sommeil au cours des premières semaines.
Vous parlez sur puéricultrice, est-ce que vous abordez aussi les adolescents ?
Alors dans les études de puéricultrice, on aborde tous les âges, effectivement. On aborde la puberté, l'adolescence, effectivement, sur les aspects physiques et sur les aspects psychologiques.
Mais du coup, finalement, c'est vraiment de faire la complémentarité avec l'aspect développement normal, psycho-affectif, donc toute la sphère psychologique qui va venir un petit peu renforcer, du coup, permettre à l'enfant de mieux se connaître. C'est presque... est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une part d'éducation thérapeutique que vous pouvez faire auprès des enfants et des familles, du coup?
Alors, l'éducation thérapeutique, on peut en faire... oui.
On revient vers vous après... une petite pause. Beaujolais d'Ombe. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Bad Guy de The Interrupters.
Merci. On découvre ensemble aujourd'hui la profession d'infirmière puéricultrice sur Beaujolais d'Ombe. Comment fait-on appel aux infirmières puéricultrices si nous sommes en difficulté avec son enfant?
Alors, il peut y avoir plusieurs façons. La première, ça peut être de chercher directement dans les professionnels de santé autour de vous, sur Google, par exemple, taper infirmière puéricultrice. Vous trouverez peut-être quelqu'un proche de vous. Les autres façons, ça peut être de demander à vos professionnels de santé qui vous suivent habituellement, médecins, sages-femmes, par exemple, notamment, ostéopathes, orthophonistes, d'autres...
Infirmière après les césariennes.
Infirmière libérale, tout à fait, qui vient faire la... enlever les agrafes après la césarienne, tout à fait.
Et la CPTS.
Et la CPTS.
On peut aussi vous informer.
Tout à fait, bien sûr.
Pour quelles raisons les parents vous contactent habituellement?
Alors, il peut y avoir des motifs assez variés. Ça représente toujours ce champ très large de la puériculture. Les raisons qui reviennent souvent, ça va être l'allaitement maternel, le sommeil. Et puis après, des difficultés, par exemple, sur la dimension, de création du lien ou des difficultés plutôt parentales, de dire je suis pour beaucoup, comment je peux gérer ça, voilà, sur les pleurs. Les
c'est
pleurs
un motif de consultation fréquente aux urgences pédiatriques, les pleurs. Ouais.
Les pleurs sont un motif de consultation fréquent aux urgences, malheureusement, parce que les parents ne savent pas justement qu'ils peuvent faire appel à d'autres professionnels en libéral. Et heureusement que les urgences sont là quand même pour accueillir ces parents démunis.
Et donc, quand vous les rencontrez, vous les voyez combien de fois, les parents ? Comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ?
Ça dépend de la problématique. En général, on se voit une première fois. Et puis, en fonction des pistes d'action qui ont été évoquées, on peut être amené à se revoir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Bon, voilà. En général, une ou deux fois, on arrive à agir déjà sur pas mal de choses. Et voilà. Parfois, ça peut demander un peu plus de temps.
C'est pas évident parce que j'imagine que vous faites beaucoup de gestion de crise. Vous faites peu de prévention, j'imagine. Les parents vous appellent quand c'est catastrophique.
C'est ça, tout à fait. Oui, parce que on revient sur un point qui a été évoqué au départ, c'est que c'est une profession qui n'est pas très connue en libéral. Les parents ont souvent connaissance quand même de la PMI, donc on a un travail équivalent. Malheureusement, les moyens de la PMI sont parfois limités, donc il n'est pas forcément toujours possible d'avoir des rendez-vous en PMI. Voilà, c'est pareil, il n'est pas toujours facile d'avoir des rendez-vous chez son médecin pour des questions,
de sommeil, par exemple,
pour des problèmes de sommeil, par exemple, ou d'allaitement. Et donc, les parents attendent, se disent que ça va aller ou ils cherchent des solutions par eux-mêmes. Et en général, quand ils arrivent vers la puéricultrice, c'est qu'ils ont déjà essayé pas mal de choses et qu'ils ont vraiment besoin d'une solution. Là.
Combien de temps environ vous les voyez ? Sur une consultation, je veux dire.
Ah, la consultation, pour moi, elle dure 45 minutes à peu près. Voilà, après, ça dépend de la problématique. Il y a des choses des discussions qui vont se faire un peu plus rapidement, des problématiques qui vont nécessiter un plus long temps d'écoute. Donc, c'est l'avantage du libéral et de pouvoir choisir le temps que je prends pour les parents, ce qui est différent quand même de l'hôpital. Où là, vraiment, voilà, je suis là pour accueillir ce qu'il y a à accueillir et. Et en général, je ne laisse pas repartir sans que la problématique soit un minimum
réglée.
Pas réglée le jour, pas au moment du départ, mais en tout cas avec des pistes d'action. Non, j'ai pas de baguette magique.
Ça y est, il dort.
Et je ne fais pas dormir les bébés le soir même. Mais voilà, c'est souvent, il y a souvent des pistes d'action que les parents vont mettre en place à la maison sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis en général, je prends des nouvelles au fur et à mesure pour réajuster, réadapter et puis apporter d'autres conseils supplémentaires s'il y a besoin.
Du coup, en lien avec les problématiques de sommeil, c'est plus difficile, mais au niveau de l'allaitement et autres, il y a aussi des mises en situation que vous faites directement au moment de la consultation avec l'enfant ou c'est vraiment centré sur de la guidance parentale essentiellement ?
Alors, sur des consultations d'allaitement, oui, c'est mieux si je peux observer une tétée au cours de la consultation, puisque ça va donner pas mal d'informations sur... sur l'efficacité, la position, la déglutition. Voilà, c'est beaucoup d'éléments qu'on peut observer au cours d'une tétée et qui vont guider après les pistes d'action.
Et donc, vous venez aussi au domicile, c'est pas qu'en cabinet ?
Oui, tout à fait. En fonction des besoins de la famille, je peux aussi me déplacer au domicile voilà, sur le secteur assez large autour de Villefranche.
Vous faites aussi, je crois, des bains thérapeutiques.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le initialement appelé le thalasso bain bébé, qui est maintenant renommé thérapeutique bain bébé, c'est un bain qui a été développé par une auxiliaire de puériculture en maternité qui avait observé que le bébé, il a passé 9 mois in utero, dans le ventre de sa maman, il était contenu, bercé dans un liquide chaud en apesanteur. La naissance représente vraiment une rupture de cet état pour le bébé. Et les premiers jours, les premières semaines peuvent être difficiles puisqu'il y a une adaptation à faire. Et le thérapeutique bain bébé, c'est un bain qu'on réalise dans les trois premières semaines de vie idéalement, au plus près de la naissance pour vraiment remettre le bébé en lien avec ses sensations in utero et qui va permettre d'apaiser ce moment, cette transition, de revivre aussi parfois un accouchement qui a pu être difficile, soit pour le bébé, soit pour les parents, soit les deux. Difficile, pas forcément médicalement. Des fois, la naissance se passe bien, tout le monde est en bonne santé, mais qui peut avoir été un peu stressant, ou un peu long, ou trop rapide, ou très douloureux. Enfin, voilà, beaucoup d'éléments. Et donc, ce bain vient permettre une deuxième naissance, où on prend le temps des parents, le temps de l'enfant, et... Et voilà, thérapeutique vraiment ce bain.
Et ça se fait une seule fois. C'est pas quelque chose que les parents font avec vous puis refont à la maison, par exemple.
Non. C'est différent du bain enveloppé qui est. Le bain enveloppé, ça va plus être une technique pour faire le bain à domicile, effectivement. Mais le bain thérapeutique, c'est vraiment un soin qu'on fait une fois, deux fois, éventuellement, s'il y a eu un gros traumatisme à la naissance et que la première séance n'a pas suffi. Mais en général, une fois, ça suffit.
Les soins sont importants. Vous avez une efficacité certaine. Et pourtant, vous n'êtes pas convention... Enfin, il n'y a pas de remboursement de vos actes.
Non. En tant qu'infirmière libérale, je peux réaliser des soins infirmiers conventionnés auprès des enfants, donc des prises de sang, des vaccins, des ablations de points de suture, etc. Ces soins-là sont des soins infirmiers qui sont effectivement reconnus par la nomenclature des actes et donc remboursés.
Très codifié. Hein.
Oui, c'est très, très codifié.
De plus en plus.
Mais les soins que vous faites, vous, en tant qu'infirmière puéricultrice, ne sont pas reconnus.
Voilà, mais tous les soins de puériculture, effectivement, ne sont pas reconnus dans cette nomenclature, donc pas pris en charge. On essaye, petit à petit, de travailler avec les mutuelles pour essayer de faire rembourser ces consultations par les mutuelles. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Et plus on va être connu et plus on va développer cette activité de libéral, et on espère que ça évoluera.
Donc certaines mutuelles prennent quand même ce soin en considération.
Alors, certaines mutuelles commencent tout juste à rembourser les consultations de puéricultrices dans le cadre des forfaits médecine douce, en général, médecine alternative, ils s'appellent différemment suivant les mutuelles, mais ça rentre dans la case avec les ostéopathes, psychologues, diététiciennes. Voilà, ça rentre dans ce forfait-là. Donc, suivant
le
niveau de mutuelle et la consommation qui a été faite, parfois le forfait a déjà été utilisé et du coup on arrive après.
Oui, ce qui peut être aussi intéressant, c'est effectivement de faire de la prévention justement sur les bains thérapeutiques et tous les aspects alimentation et sommeil pour prévenir aussi tout ce qui va être les plus grosses difficultés dans l'enfance et l'adolescence, voire même à l'âge adulte après. Au niveau alimentaire sommeil, et c'est vrai que c'est...
Alors, la prévention a toujours été un de mes dadas, j'ai envie de dire. Déjà, à l'école d'infirmière, j'avais fait mon mémoire sur un aspect de prévention, à l'école de puéricultrice aussi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je trouve qu'en s'informant avant, en étant guidée, etc., on évite beaucoup de difficultés, et que ce soit pour l'allaitement, pour le sommeil, parce que c'est les principales, mais pour d'autres choses. Se faire accompagner dès la grossesse ou dès les premières semaines de vie de bébé, ça éviterait beaucoup de situations un peu compliquées derrière. Ouais.
Surtout que les parents sont certainement en attente d'informations avant la naissance ou post-naissance. Et donc, c'est vrai que c'est dommage. Autant la prévention générale, c'est quelque chose qui est très difficile. On sait, c'est très énergivore et on a peu de résultats sur des manifestations de prévention. Autant là, il y a certainement une attente.
C'est quelque chose qui revient souvent des parents, c'est que pendant la grossesse, ils sont beaucoup accompagnés. Il y a des visites régulières tous les mois, la préparation, les séances de préparation à la naissance et à l'accouchement juste avant la naissance. Et puis, une fois le bébé est né, on reste deux jours à la maternité et puis il faut rentrer à la maison avec ce petit bébé qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'arrive pas forcément à décoder, avec la fatigue, les douleurs qui vont avec, et on se retrouve un peu seul. Alors, heureusement, la sage-femme, quand même, fait le suivi post-natal sur les premiers jours, les premières semaines. La PMI aussi, mais voilà. En fonction des secteurs, elles n'ont pas toujours la possibilité, malheureusement, de voir toutes les jeunes mamans et tous les nouveau-nés. Et du coup, souvent, ces parents se retrouvent un peu démunis parce qu'ils n'osent pas déranger la sage-femme ou le médecin pour des questions qu'ils estiment du quotidien et des questions non médicales. Et c'est là où on a toute notre place en complément des autres professions, justement.
Oui, parce que du coup, ça peut être culpabilisant aussi pour certains parents de se poser ces questions-là. S'il n'y a pas d'accompagnement, finalement, est-ce que je suis légitime de me poser ce genre de questions ?
Oui.
Revenons simplement, on l'a dit en début d'émission, Vous êtes dans une maison de santé.
Oui.
Donc avec un travail pluriprofessionnel.
Oui.
Donc justement, c'est là où peut se faire la bonne gestion de toutes les professions et du bon soin au bon moment, au bon endroit.
Et oui, on y travaille. Voilà, il y a des liens qui se font entre les professionnels et du coup, les parents sont informés en allant chez le médecin que je suis là, etc. Donc, il y a du lien qui se fait comme ça, c'est chouette.
Et c'est pour ça que les maisons de santé ont un tel succès auprès des professionnels de santé. On fera peut-être une émission un jour sur les maisons de santé, mesdames.
Pourquoi pas ?
Ça peut être dans les tuyaux.
Ça peut être sympa. Ouais, exact. On va se faire une petite pause. On va se faire une petite pause musicale, on revient vite vers vous et puis on aura une interview d'une famille.
Deux interviews.
À tout de suite.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire.
Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
La fin du monde de Sam Sauvage.
Si vous avez manqué le début de l'émission, venez nous rejoindre en podcast sur le site internet de Radio Calade ou sur le site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombe. Comme nous l'avons évoqué avant la pause, nous allons donc écouter une interview d'une famille beaujolaise.
Deux, toujours.
De... Oui, non, mais la première.
Ok, oui, ça joue. Deux interviews de deux familles du secteur.
Voilà, et la première porte sur le bain thérapeutique. Voilà.
C'est ça.
Non, c'était pour vous faire participer. Mais
bien sûr.
Bon. Ok, d'accord.
Un petit peu.
Nous écoutons.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Bonjour, vous êtes Coralie, la maman de Flore, qui a actuellement 2 mois et demi. Vous avez fait appel à Cindy Consigny, qui est infirmière puéricultrice libérale. Alors tout d'abord, comment vous l'avez connue ?
Eh bien, je l'ai connue via Doctolib. Je cherchais un ou une professionnelle liée à l'allaitement, puisque quand j'étais en fin de grossesse, j'avais une ampoule de lait sur le sein et j'avais besoin de consulter, d'être rassurée, chose que Cindy a très bien fait, elle m'a donné quelques petites astuces. Et à ce moment-là, elle m'a évoqué ses autres activités, comme le bain thérapeutique, et ça m'a intéressée pour mon bébé, quand il sera né, voilà, c'est un bain qui se fait avant 3 semaines, donc j'ai réalisé à 2 semaines et demie de vie.
D'accord, très bien. Donc vous avez retrouvé donc Cindy quand votre bébé avait quelques jours, vous avez fait ce bain thérapeutique, oui. qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors ça s'est très bien passé, c'était un très joli moment familial de détente où on a pu voir moi et mon conjoint, notre bébé vraiment détendu dans l'eau grâce aux différents mouvements doux que Cindy a effectués dans la baignoire. Voilà, elle a préalablement mis un linge sur notre bébé, elle l'a emmailloté et puis glissé dans l'eau et très délicatement et puis effectué des mouvements doux. Voilà, notre bébé a bien apprécié.
Très bien. Donc vous avez apprécié, votre bébé aussi.
Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage et puis bonne journée.
Bonne journée, merci.
J'ai une petite question. Le bain thérapeutique, vous le faites au cabinet ou vous allez aussi au domicile des parents pour le faire ?
L'un ou l'autre, pareil. Je peux le faire au cabinet ou au domicile des familles en fonction des besoins. Par exemple, une maman qui a eu une césarienne un peu difficile, pour lui éviter de se déplacer jusqu'au cabinet, je peux aller à domicile.
La maman qu'on a entendue parler d'un moment familial, c'est le papa, la maman et le bébé, il n'y a pas les frères et sœurs autour ?
Alors, en général, il n'y a pas les frères et sœurs. La raison, c'est que j'ai envie que les parents soient vraiment connectés avec le bébé à ce moment-là. Et s'il faut gérer un aîné derrière qui court, qui crie, ça sort les parents de leur bulle. Et je trouve ça dommage. Après, ça m'est arrivé de faire un bain avec une grande sœur qui était présente. Et ça a été aussi un moment super sympa parce que du coup, elle a participé avec nous. Et c'était chouette aussi de cette création de lien entre la grande sœur et la petite sœur.
C'est pratiquement un moment de communion.
Oui.
De la façon dont elle l'a raconté, il y avait vraiment le sourire, la banane aux lèvres. On sentait vraiment qu'il y avait un échange. Quoi.
Oui. Oui. Parce que ce moment-là, c'est vraiment un moment où les parents sont concentrés sur leur bébé, mais ce n'est pas eux qui ont le bébé entre les mains. Donc, ils sont vraiment détendus physiquement et concentrés sur leur bébé, sur ses réactions, etc., sans avoir à se concentrer sur est-ce que je ne vais pas le faire tomber, est-ce qu'il ne va pas se noyer ou quoi. Donc, c'est vraiment un moment où les parents, ils observent leur bébé, ils observent ses réactions, et c'est un moment vraiment de lien vraiment très fort. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres moments de partage que vous pouvez faire, hormis donc ce bain thérapeutique qui a...
Alors oui, je peux proposer des ateliers massage bébé par exemple, qui peuvent se faire à tout âge aussi. Là par contre c'est le parent qui va masser son bébé, donc c'est vraiment aussi un moment d'échange entre la maman et son bébé ou le papa d'ailleurs.
Ou le papa
aussi. Oui.
Ouais.
Après au niveau échange plus global, je propose aussi des cafés parents pour justement ces échanges. Entre parents qui vivent le même quotidien.
C'est intéressant. Donc en fait, vous invitez finalement un, deux, trois couples.
Voilà, oui.
Pour partager. Oula, je vais
partager.
L'échange.
Oui. voilà, autour d'une petite boisson et quelques douceurs à grignoter pour se faire du bien au moral. Et puis on parle de tout et de rien, soit autour de la parentalité, soit les parents ont aussi envie de sortir de ça et de parler d'autre chose. Et dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment un moment ouvert, sans thème imposé, mais vraiment pour sortir du quotidien qui peut parfois être difficile de jeunes parents qui sont isolé à la maison avec un nouveau-né qui pleure beaucoup, qui dort pas, enfin voilà.
Ça permet peut-être aussi, en tant que maman, des fois on se rend pas compte que, surtout pour le premier, que ça va être si intense et ça va prendre autant de temps que rien que de prendre une douche, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et de parler à d'autres parents et se rendre compte qu'en fait aussi les autres,
c'est pareil chez les
ça
autres.
Ça rassure.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est rassurant, je pense.
Ouais.
Vous avez fait ce moment d'échange de façon répétée. C'est quelque chose que vous avez vraiment institué dans votre pratique ou...
Oui, je le propose en général une fois par mois.
Et avec des parents que vous avez accompagnés ou ça peut être des parents qui cherchent
Aux parents que j'ai accompagnés, mais d'autres parents que je n'ai pas encore rencontrés peuvent tout à fait venir. Oui, bien sûr, avec plaisir.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non.
On peut passer à la deuxième interview?
Exactement.
Alors, c'était sur le sommeil.
Alors là, c'est sur le sommeil. Ça, c'est une maman que vous avez vue une première fois, puis une deuxième fois
c'est
pour le sommeil.
Oui.
OK.
Bon, on va Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire.
Bonjour, vous êtes Céline, la maman d'Amédée qui a un an maintenant. Vous avez fait appel à Cindy Consigny, qui est donc infirmière péricultrice libérale, quand votre bébé avait 6 mois. Tout d'abord, comment vous l'avez connue?
Alors, j'ai connu Cindy à la naissance d'Amédée pour une thérapie bain-bébé.
Oui.
Et ensuite, j'ai fait appel à ses services parce qu'Amédée avait des problèmes de sommeil. Et du coup, j'ai fait appel à Cindy pour ces problèmes-là.
D'accord. Et comment s'est passée la consultation? Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé.
Alors, on a déjà fait sur les routines d'Amédée. Et en fait, on n'avait pas du tout.
D'accord.
Et du coup, elle m'a aidée à mettre en place une routine fixe par jour pour lui permettre de mieux s'endormir au moment des siestes, car les siestes étaient vraiment chaotiques, même en journée. Et ensuite, on a pu mettre en place un sommeil, une heure de sommeil régulière pour le coucher du soir.
Très bien. Vous avez consulté une seule fois Cindy? Vous l'avez vue plusieurs fois?
Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu en tout 3 fois, plus des mails un petit peu par-ci, par-là.
D'accord, qui vous ont bien aidé, du coup, si j'ai compris?
Oui, c'est sûr, Cindy est très à l'écoute et du coup, elle est vraiment disponible.
D'accord, c'est votre premier bébé?
Non, c'est mon 4e.
D'accord, et malgré les 3 autres bébés, vous aviez eu des soucis aussi avec les précédents ou c'était pas particulièrement?
Non, du coup, c'est effectivement, je me suis dit, un 4e, ça va être pareil, ça va rouler. Et en fait, pas du tout, donc elle n'avait pas du tout de rythme, et, contrairement aux 3 premiers. Donc, c'est vrai que j'avais jamais rencontré ce problème, et elle m'a bien aidée à ce niveau-là.
Très bien. Donc, votre petit Amédée fait de bonnes nuits de sommeil maintenant, ou presque?
Oui.
C'est ça.
C'est ça.
Très bien.
Non, ça s'est beaucoup amélioré. On a pris un rythme, ce qu'on n'avait pas du tout.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et puis passez une bonne journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Santé Beaujolais-Dombes.
Le sommeil, c'est un vaste sujet.
C'est un vaste sujet et...
Comment vous arrivez à pouvoir... diagnostiquer finalement les besoins de l'enfant et du parent, enfin, et des parents.
Ouais. Alors souvent, ça part du besoin des parents.
Oui.
Parce qu'ils ont besoin de dormir.
Qui ont besoin de dormir.
Oui, c'est clair.
Ouais. Parce qu'on imagine qu'un bébé a le même sommeil qu'un adulte et on se dit, bah voilà, alors on entend en plus plein de choses. Il a 3 mois, comment ça se fait qu'il ne fait pas encore ses nuits? Mais comment ça se fait qu'il tète encore la nuit? Mais il devrait dormir, tu ne devrais pas le garder contre toi et tu vas lui donner mauvaises habitudes. Et donc les parents, ils sont complètement perdus et ils ont une fausse idée du fonctionnement du sommeil du nourrisson. Et donc ils ont souvent des attentes... supérieure à ce que le nourrisson est en capacité neurologique de faire. Donc, après avoir bien explorer comment ça se passe à la maison, les habitudes, voilà, ce que les parents ont mis en place, etc. Ça permet de cibler quelle est la, pas la problématique, mais la piste d'action principale et de guider les parents tout en informant justement de la physiologie du sommeil du nourrisson. Parce que quand ils comprennent comment fonctionne le sommeil du nourrisson, bah, déjà ça permet de relativiser certaines choses. De dire, bon, bah, en fait, il ne dort pas si mal que ça. C'est juste qu'il ne dort pas comme je voudrais, moi, mais il ne dort pas si mal que ça. Donc, de comprendre comment ça fonctionne, ça leur permet d'avancer aussi plus facilement. Et puis après, en fonction de la problématique, on cible les actions à tester.
La maman d'Amédée qu'on a entendue, elle disait que c'était son quatrième enfant. Mmh. Elle n'avait pas eu de soucis avec les autres. Ça veut dire que... Les autres enfants avaient trouvé leur rythme tout seul et Amélie le trouvait pas. C'est ça le.
Ça, oui, ça peut. Chaque enfant, comme chaque individu, peut avoir ses particularités. Et certains enfants ont plus de facilité à se laisser aller au sommeil. D'autres ont un peu plus de difficultés. Voilà, c'est très variable et ça, oui, ça peut arriver. Là, après, l'environnement peut faire que, ben, peut-être que lors du premier enfant, leur environnement était différent, etc. Il peut y avoir tellement d'éléments qui rentrent en compte. Forcément, avec un quatrième, le rythme, il est un peu différent puisqu'il y a les aînés à gérer. Donc, on n'est pas forcément disponible à l'horaire où le train du sommeil passe. Du coup, on rate. Du coup, l'enfant est trop fatigué. On le réveille de la sieste pour aller chercher les grands à l'école. Donc, voilà, chaque situation est unique et il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne à tous les coups. Vraiment, ça nécessite une exploration individualisée de la situation.
Avec des facteurs multiples à prendre en compte.
Avec des facteurs multiples. L'allaitement est souvent... Enfin, l'allaitement ou l'alimentation au biberon est souvent lié. Les parents ont souvent plus de questions sur le sommeil des bébés allaités parce qu'ils ont l'impression que l'allaitement... ne favorise pas le sommeil. Alors qu'en fait, quand on leur explique comment ça fonctionne, ils se rendent compte que pas du tout, l'allaitement n'a rien à voir et que c'est pas parce qu'un enfant est nourri au sein ou au biberon, au lait maternel ou au lait artificiel qu'il va dormir mieux ou moins bien. Mais faut déconstruire, il y a pas mal d'idées reçues à déconstruire.
C'est ce que je comprends. En fait, la fausse information parfois qui est donnée aux parents est vraiment nuisible pour l'enfant.
Tout à fait.
Le stress que ça peut engendrer finalement est...
Et pour les parents, pour le coup. Mm-hmm.
Oui.
Oui, parce que du coup, ils n'ont pas les mêmes les attentes qui sont infaisables.
Qui sont pas réalistes,
Santé vos gelées d'ombes.
On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
I'm still
Santé Beaujolais d'Ombe.
Vous êtes toujours avec nous sur Santé Beaujolais d'Ombe, Radio Calade, et vous venez d'écouter
Children on the Rampage de Thunder Mother.
Si vous avez manqué le début de l'émission, venez nous retrouver sur le site de la radio de Radio Calade, excusez-moi, en podcast, ou dans l'onglet Santé Beaujolais d'Ombe. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si des auditeurs souhaitent prendre contact avec vous, comment peut-ils faire ?
Alors, ils peuvent me contacter directement sur Doctolib, Cindy Consigny. Je suis accessible et j'accepte les nouveaux patients. Sinon, par téléphone directement. Je peux donner le nom.
Oui, oui, allez-y.
Alors, mon numéro, c'est 06 17 28 52 61.
Et sinon, ils peuvent... Répétez encore une fois, parce,
oui, parce qu'il faut chercher, temps,
faut chercher le
papier,
stylo, le stylo ne fonctionne
stylo,
jamais.
Le stylo, être prêt, ça ne marche pas, il faut en prendre un autre, il n'y a plus de mine, il n'y a plus d'encre.
Alors, c'est le 06 17 28 52 61.
Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Marie et Alexandra, nos invités et nous-mêmes faisons cela, comme vous le savez, sur nos temps disponibles, qui sont fort nombreux, bien sûr, et que nous sommes avant tout des professionnels de santé. Merci, Cindy, de nous avoir accompagnés durant toute cette émission.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Merci à l'équipe, merci Alexandra, merci Marie, à Maury. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous, même heure, même endroit.
Dans un mois.
Pour ?
Pour la prochaine
cours de traitement. Faut pas me poser de colle comme ça ce soir.
Pour la prochaine émission, voilà.
Ok, alors la suite, à la prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombe.
Calade.